Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi les femelles chimpanzés sont-elles moins impliquées dans la chasse collective que les mâles ? Quel type de proie mange-t-elle, s'interroge le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin. Quel point de comparaison avec les hommes pourrait offrir les chimpanzés de Fongoli au Sénégal? En effet, ces primates évoluent en savane, ils s'abritent dans des grottes, ils fabriquent des armes pour chasser, comme les hominines, nos lointains ancêtres primates, dont le genre homo fait partie. Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité au Collège de France, titulaire de la chaire internationale de paléoanthropologie, nous entraîne dans une grande exploration de la prédation chez les hominines dans sa nouvelle série intitulée « L'homme prédateur ». Depuis le cours précédent, il interroge notre évolution à partir des travaux des primatologues sur les comportements alimentaires chez les grands singes africains, notamment le chimpanzé commun, qui pratique une chasse organisée pour se procurer de la viande et une sorte de transfert, de partage de sa nourriture précieuse avec ses alliés. Jean-Jacques Hublin a produit de nombreux travaux sur l'évolution des Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes. Il s'est intéressé également à l'évolution des rythmes de croissance et au développement cérébral chez les hominidés regroupant tous les primates, donc les grands singes, chimpanzés, gorilles, orang-outans, mais aussi les lointains ancêtres de l'homme et ses formes disparues. Dans cette nouvelle série, il essaie d'appréhender, au travers de la prédation, la transition entre le monde des primates non humains et les hommes eux-mêmes dans les temps les plus reculés de nos origines. Dans le passionnant ouvrage collectif intitulé « Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances » publié récemment, Jean-Jacques Hublin a livré une belle contribution et explique. Les données moléculaires situent aujourd'hui la divergence homme-chimpanzé entre 9,3 et 6,5 millions d'années. Les premiers jalons de la lignée menant à l'homme ont tous été découverts en Afrique, qui est généralement considéré comme le continent d'origine des hominines. Alors pourquoi manger de la viande pour un primate essentiellement végétarien au départ, demandait-il en ouverture de sa série « L'homme prédateur ». L'interrogation se poursuit dans le cours d'aujourd'hui. Dans une première partie, il achève son étude des grands singes non humains, les diversités de comportements de chasse pour les chimpanzés, les femelles, les chimpanzés de savane et les différences avec les bonobos, espèces plus pacifiques mais qui n'évitent pas les comportements de cannibalisme ni la délicate question des infanticides. Puis, ce cadre étant posé, il ouvre le grand dossier des origines de la chasse chez les hommes au Paléolithique. Mais avant la savane du Sénégal et celle de nos ancêtres préhistoriques, restons encore un peu sous la canopée chez les chimpanzés communs que nous avons découverts dans le cours précédent, tels ceux de Gombe en Tanzanie. Et nous gagnons le Collège de France le 30 octobre 2018 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, la consommation de viande chez les grands singes et les origines de la chasse.
Alors, les chimpanzés communs, vous avez vu qu'on les trouve sur un territoire qui est très vaste. Alors, ils pratiquent tous, avec plus ou moins d'intensité et plus ou moins de succès, la chasse, la consommation de viande. Mais en fait, ce qui est très frappant quand on regarde toutes les études qui sont publiées sur le comportement des chimpanzés communs, c'est justement la variété, la diversité de ces comportements, leur complexité aussi. Vous savez qu'au cours des dernières décennies, dans le fond, on a graduellement découvert que c'était des primates qui étaient capables de non seulement d'utiliser des outils, mais de fabriquer des outils, d'avoir des comportements assez complexes. Et les comportements de chasse font partie de ces comportements complexes. Il y a des variations qui s'observent non seulement d'une sous-espèce à l'autre, mais au sein d'une sous-espèce, d'une population à l'autre. Et ces variations ne sont pas toujours liées aux conditions environnementales. Elles donnent l'impression souvent d'être une forme de tradition. Hein. On a même utilisé le mot de culture chimpanzé. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes que certains groupes ont et qui se transmettent d'une génération à l'autre sur des périodes assez longues et qu'on a du mal à interpréter, sinon en termes justement de tradition.
Chez le chimpanzé commun, on a des comportements sociaux autour de la chasse et en particulier des chasses collectives, des chasses organisées où sont essentiellement les mâles, j'allais dire, qui prennent des risques. Ce sont aussi essentiellement les mâles qui bénéficient du produit de la chasse, encore que on a vu qu'il y avait des transferts de viande à l'issue de ces chasses, et ces transferts de viande, dans le fond, consolident les liens sociaux.
Donc, je vous l'ai dit, c'est surtout une affaire de mâles, mais il ne faut pas quand même complètement oublier les femelles. Et donc, les femelles participent à ces chasses collectives. En tout cas, elles les suivent. Et puis, on sait aussi que les femelles, elles aussi, consomment de la viande, même si c'est un peu moins que les mâles qui sont de bons chasseurs. Et on a étudié dans certains sites, à Gombe, encore une fois, qui est un site qui est très, très étudié, on a étudié quel genre de proie, dans le fond, les femelles mangeaient. Hein. Et c'est très intéressant parce que j'ai insisté sur le fait que cette consommation de petits mammifères, c'était quelque chose qui était centré énormément sur les petits singes, sur les colobes en particulier. Eh bien, ça, c'est ce que l'on voit comme image générale du comportement de ces chimpanzés communs. Maintenant, quand on regarde ce que spécifiquement les femelles attrapent et tuent, eh bien, ce sont plutôt justement ces petits mammifères qui ne demandent pas la formation de groupes importants de chimpanzés avec des chasses organisées, coordonnées pour les capturer. Vous savez, ces petits animaux dont j'ai dit, on peut les trouver sur son chemin, les attraper et puis les manger. Et donc, les femelles en particulier tuent de façon beaucoup plus abondante des petites antilopes, alors que vous voyez que le nombre de petits singes arboricoles comme les colobes sont beaucoup moins nombreux parmi les proies qui sont tuées et consommées par les femelles, alors que les petites antilopes sont assez nombreuses. Alors, évidemment, on a essayé de comprendre pourquoi les femelles étaient moins impliquées dans la chasse collective et pourquoi elles étaient plus portées à consommer ces petits mammifères qu'elles pouvaient trouver seules, si je peux dire. Alors, on a avancé plusieurs arguments, plusieurs interprétations, et vous voyez tout de suite que, évidemment, tous ces débats, ils s'inscrivent dans cette idée qui est un peu remis en cause aujourd'hui, l'homme chasseur, c'est-à-dire l'idée que ce sont les mâles qui vont attraper le gibier, et puis les femelles, elles restent à la maison pour faire des enfants. Hein. C'est le Man the Hunter, c'est même le titre d'un ouvrage qui a été très, très critiqué. Eh bien, on l'a transposé dans le monde des chimpanzés. Alors, en fait, on a remarqué que ces femelles chimpanzés, le fait qu'elles soient accompagnées de petits, qu'elles portent sur elles, apparemment, c'est pas un facteur qui les empêche de chasser. Donc, c'est pas ça qui va les empêcher d'attraper une petite antilope. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même chez elles un évitement du risque qui est plus important que ce qu'on trouve chez les mâles. Donc, elles ont tendance à aller vers la consommation de mammifères, je dirais, low cost, low risque. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on trouve aussi chez les hommes. Hein. D'une façon générale, chez les hommes, les mâles sont, plus portés au comportement à risque que les femelles. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui explique que les mâles ont une espérance de vie plus réduite. Hein. Dans les sociétés modernes, les comportements de risque, c'est la conduite automobile, l'alcool, la cigarette, etc. Et d'autres bêtises que les mâles font pour plaire aux femelles. Mais c'est quelque chose, curieusement, qu'on observe aussi chez chimpanzés. Et alors, il y a un autre facteur, évidemment, qui est aussi... alors lui, qui est particulier à ces sociétés de chimpanzés, dont je vous ai dit qu'elles n'étaient pas forcément toujours très confraternelles, c'est que ces femelles, quand elles ont quand elles réussissent à attraper un petit colobe, quand elles participent à une de ces chasses collectives, ben quand même, elles ont une grosse probabilité de se le faire prendre par un mâle dominant plus puissant qu'elles. La probabilité qu'une carcasse soit dérobée à une femelle par un mâle en fonction du nombre de mâles présents dans le groupe. Donc vous voyez, dès qu'il y a plus que 3 ou 4 mâles, c'est terminé. Elles n'ont pas vraiment intérêt à participer à ces opérations collectives parce que finalement, elles ont un gros risque de se faire déposséder de cette proie qu'elles pourraient tuer. Alors, tout n'est pas perdu pour les femelles quand même, puisque je vous ai dit, elles arrivent quand même à attraper ces petits animaux, pas dans les chasses collectives, mais plutôt sur le sol. Puis alors, une fois la chasse achevée, vous avez vu qu'il y a un partage. Alors, j'utilise le mot partage, mais c'est pas un vrai partage en fait, hein, mais disons qu'il y a un transfert de nourriture des chasseurs qui ont tué le petit colobe vers d'autres membres du groupe. Alors, ce transfert de nourriture, j'hésite à utiliser le mot partage parce que souvent c'est plutôt un transfert passif, c'est-à-dire que dans le fond, une fois qu'un individu a mangé une bonne partie d'une carcasse d'un de ses petits singes, eh bien, il va laisser un autre individu du groupe en manger aussi sans se montrer agressif à son égard. Hein ? Donc, c'est ce qu'on peut appeler un transfert passif. Mais il y a aussi des cas où un des chimpanzés qui consomme la viande va, dans le fond, répondre aux sollicitations d'un autre individu qui demande, j'allais dire mendie, une partie de cette proie. Et puis, il y a aussi des cas de figure où, spontanément, les chimpanzés peuvent donner une partie de cette viande à un individu qui n'a pas tué la proie. J'allais dire, d'une certaine façon, et ça a été montré par de nombreuses expériences sur les comportements des chimpanzés. Les chimpanzés peuvent se montrer coopératifs au sein d'un groupe jusqu'à un certain degré, qui est quand même nettement plus faible que ce qu'on observe chez des hommes, même des jeunes enfants. J'allais dire aussi longtemps qu'il n'y a pas de la nourriture en jeu. Mais dès qu'il y a de la nourriture en jeu, ça devient assez compliqué de faire coopérer des chimpanzés dans des dispositifs expérimentaux. Alors, une des questions qui se pose, évidemment, c'est pourquoi les chasseurs qui ont tué un animal vont laisser un autre individu le consommer ou donner, plus ou moins spontanément ou pas, de la viande à un autre individu du groupe. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. Une, c'est « sex against meat », hein, c'est-à-dire, dans le fond, on donne de la viande aux femelles parce que ben elles seront gentilles plus tard avec cet individu-là qui a donné de la viande. Et puis aussi, on s'est rendu compte que les chasseurs qui ont à leur disposition de la viande vont en donner à des individus qui sont des individus alliés au sein du groupe de chimpanzés. Encore une fois, ce sont des groupes qui sont quand même soumis à un degré d'agressivité, de violence qui peut être assez extrême. Hein. On a des cas d'assassinats, hein, de meurtres de chimpanzés, parfois fomentés par plusieurs autres individus au sein d'un groupe. Donc ce sont des interactions qui peuvent être assez violentes. Et donc il est important d'avoir, dans le fond, une espèce de réseau d'alliés au sein du groupe. Et donc ce partage de la nourriture, ce transfert de nourriture, fait peut-être partie de ce processus. Alors ces différentes hypothèses ne s'excluent pas mutuellement. Hein. C'est-à-dire, pour résumer, l'idée c'est de se faire des copains et des copines en donnant de la viande, en se disant que plus tard, les uns et les autres pourront être utiles. Alors, pour finir avec la chasse des chimpanzés et cette question du rapport mâle-femelle, je voudrais vous présenter un groupe de chimpanzés particulier qui est un groupe de chimpanzés de la région de Fongoli au Sénégal. Et ces chimpanzés, ils nous intéressent particulièrement parce qu'ils vivent dans un environnement qui est un environnement très différent des chimpanzés de Thaï ou des chimpanzés de Gombe ou de Ngogo. Ce sont des chimpanzés qui vivent dans des savanes arborées. Donc là, il n'y a pas de canopée, il n'y a pas de grands arbres pour poursuivre les colobes. Et dans le fond, ces chimpanzés qui vivent dans ces milieux de savane, on les connaît beaucoup moins bien dans leur comportement que les autres, hein, parce qu'il y a moins de sites d'observation. Et pourtant, du point de vue de la comparaison avec les hominines, c'est eux qui nous intéressent le plus, parce que les ancêtres des hominines, dans leur évolution vers le genre homo, ont été exposés à des environnements de ce type, et on a tout un attirail d'explications à propos de l'origine des comportements humains qui sont liés justement à l'adaptation au milieu ouvert, à l'absence d'arbres, à la libération par rapport aux arbres et à toutes les choses qu'on a été obligé de faire pour survivre dans ces milieux. Alors dans cette région de Fongoli, on a récemment décrit des comportements qui sont des comportements tout à fait je dirais remarquable. Par exemple, ces chimpanzés vont s'abriter dans des grottes. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement observé ailleurs, mais qu'on observe avec ces chimpanzés. Et puis, ils font aussi autre chose, c'est que dans ces chasses aux petits mammifères, ils vont utiliser ce qu'on est obligé d'appeler des armes et qui ressemblent, en fait, à des espèces de petites lances qu'ils utilisent pour transpercer des proies. Et ce qui est remarquable aussi avec ces chimpanzés de Fongoli, c'est que dans cette région-là, dans ce groupe-là de chimpanzés, les femelles participent, mais se montrent extrêmement expertes dans cette chasse avec ces armes qu'elles fabriquent, et même d'une façon qui est très nettement contrastée par rapport à ce que font les mâles. Alors voilà une petite vidéo qui vous montre une femelle qui monte dans un arbre avec une de ses, entre guillemets, lances qu'elle a fabriquées et qu'elle va introduire dans un tronc d'arbre pour capturer le petit animal que vous voyez en bas à gauche de l'image, qui s'appelle un galago et qui est un petit primate proximien qu'on trouve au Sénégal. Et donc, voilà, cette femelle sait se servir avec beaucoup de dextérité de cette, entre guillemets, de cette lance. D'ailleurs, qu'elle modifie au cours de sa chasse pour pouvoir capturer cet animal. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Alors voilà une collection de ces objets plus ou moins pointus qui ont été récoltés à Fongoli par les primatologues. Alors, il y en a qui ressemblent vraiment à des lances, il y en a qui sont un peu tordus, un peu mal fichus. Ce que raconte la primatologue qui étudie ces chimpanzés, c'est que c'est plutôt les mâles qui font des trucs un peu mal fichus. Mais le fait est que ce qui est intéressant, c'est qu'à Fongoli, quand on regarde la proportion de mâles et de femelles qui chassent, on voit que, en tout cas, pour ce qui est de cette chasse avec ces armes, il y a une proportion égale de mâles et de femelles qui pratiquent ce type de chasse. Et on a, en gros, quelque chose qui correspond au sexe ratio qu'on observe dans cette population-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que l'on a observé ailleurs avec nos chimpanzés qui vivent dans la forêt. Et vous avez l'exemple de Ngogo, donc ce site qui est en Ouganda. Vous voyez qu'à Ngogo, on est à 98% de mâles qui chassent et qui arrivent à attraper des animaux contre seulement 2% de femelles. Alors ça, c'est un cas complètement extrême. Dans d'autres sites comme à Thaï ou à Gombe, cette proportion de femelles est un peu plus élevée quand même. Mais Fongoli, de ce point de vue-là, est tout à fait remarquable. Et alors, évidemment, comme ce sont des chimpanzés de savane et que les premiers hominines ont évolué dans la savane, eh bien, on s'est évidemment empressé de dire que peut-être que ces chimpanzés-là représentaient un meilleur modèle pour les hominines les plus anciens plutôt que ceux qui vivent dans des milieux forestiers. Alors, quand même, même à Fongolé, on voit quand même toujours cette différence vis-à-vis du risque entre mâles et femelles. C'est-à-dire que donc les femelles sont très bonnes pour attraper ces petits galagos avec leur petite lance, qu'elles les transpercent dans ces troncs d'arbres. On peut aussi les attraper d'une autre façon. Hein. Et puis, on voit quand même que dès qu'il s'agit de proies qui sont des proies, je dirais, plus grosses, et puis aussi plus agressive, là, on retrouve la situation qu'on a dans d'autres sites où les chimpanzés sont observés. Donc les singes vervettes, alors qui sont des petits singes, ne sont pas les colobes, sont d'autres petits singes. On voit que les mâles sont quand même ceux qui attrapent le plus de petits singes. Pareil pour les petits babouins. Donc là, on retrouve cette différence de comportement en termes de prise de risque dans la chasse. Alors pour finir, je voudrais vous parler d'un dernier sujet qui est un petit peu délicat, qui est celui du cannibalisme et de l'infanticide chez les chimpanzés. Alors les chimpanzés au commun, je vous ai dit, vivent dans une société qui est quand même assez agressive, qui est assez territoriale aussi. Et ce qu'on observe de façon régulière, ça a été observé en particulier à Gombe, c'est que régulièrement, les chimpanzés patrouillent au périmètre de leur territoire, de leur groupe, et de temps en temps, un groupe de mâles va faire une expédition dans le territoire d'un groupe voisin et attaquer ces chimpanzés, surtout quand ils sont isolés et en petit nombre. Et donc là, vous voyez par exemple une femelle d'un groupe voisin qui est prise à partie par trois mâles, donc elle est plutôt mal partie, mais elle va réussir à s'échapper. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Et donc, dans ce film, vous allez voir un petit chimpanzé, enfin un chimpanzé juvénile, qui malheureusement ne va pas réussir à échapper à ses agresseurs, qui vont le capturer, qui vont le tuer et qui vont le manger. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà observé de façon régulière. Dans ces guerres entre chimpanzés, eh bien, les jeunes individus qui sont capturés sont mangés, sont consommés. Là aussi, c'est intéressant de comparer avec ce qui se passe chez les hominines, parce qu'on a des exemples chez des hominines anciens de consommation de jeunes individus. Alors, bon, toujours des collègues qui sont assez empressés pour expliquer ça en termes de comportement rituel, symbolique, etc. Mais il y a aussi cette possibilité que, surtout pour les formes anciennes du Pléistocène inférieur, on ait une forme de cannibalisme agressif qui consiste à aller manger les enfants des voisins. Alors donc, je vous ai beaucoup parlé des chimpanzés communs, et vous devez vous demander ce qui se passe avec ces pauvres bonobos qui vivent de l'autre côté de la frontière naturelle que constitue le fleuve Congo. Alors ces chimpanzés pygmées, ces chimpanzés nains, ces bonobos, représentent une espèce, je vous l'ai dit, qui s'est séparée des chimpanzés communs il y a environ 2 millions d'années. C'est un modèle qui est très différent, un modèle de société qui est très différent de celui des chimpanzés communs. Ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus, d'une certaine façon, pacifiques, qui ne montrent pas le même degré d'agressivité interindividuelle. Ce sont aussi des sociétés dans lesquelles on n'observe ni le cas d'agression létale qu'on observe chez les chimpanzés communs, mais dans lequel on n'observe pas non plus en tout cas dans le, à l'état sauvage, des chasses organisées comme celles que je vous ai montrées à Ngogo, mais sont des sociétés qui sont des sociétés où on a d'abord une dominance des femelles, et donc les groupes sont des groupes qui sont dominés par des associations de femelles qui, si je peux dire, gardent les mâles sous contrôle grâce à des alliances qu'elles nouent entre elles, en particulier grâce à une utilisation du sexe, si je peux dire, pour à la fois créer ces alliances et puis aussi résoudre les tensions, on va dire ça comme ça. Donc chez les bonobos, il n'y a pas d'agressivité parce qu'on fait plutôt l'amour que la guerre. Et donc quand il y a beaucoup de stress, beaucoup de compétition, en général, ça se termine comme à gauche. Soit en passant, il s'agit de deux femelles. Hein, et d'ailleurs, soit des mâles ou des femelles, ça se passe dans toutes sortes de positions, mais de façon intéressante, souvent face à face, comme ça, ce qui est aussi un caractère assez, je dirais, humain que l'on peut trouver chez ces chimpanzés. Alors, je vous ai dit donc que ces bonobos qui ont ce comportement tout à fait intéressant, ils ne pratiquent pas des chasses coopératives, mais ils consomment quand même, eux aussi, de la viande. Et il y a quelques années, il y a un de mes jeunes collègues qui s'appelle Misha Hofreiter, qui a publié une étude très intéressante, parce que dans le fond, on souffre du manque d'observation sur les bonobos sauvages. Les premiers bonobos sauvages, les premiers spécimens qui ont été capturés, ramenés en Europe, c'est dans les années 1920, hein, donc c'est quelque chose d'assez récent. Et puis, ils vivent sur un territoire qui est beaucoup plus petit que celui des chimpanzés communs. Donc, on, dans le fond, on connaît très peu de choses sur, j'allais dire, sur la psychologie et sur le comportement des bonobos dans la nature. On le connaît peut-être plus dans les zoos. Et donc, Hofreiter, il a eu l'idée d'étudier les traces d'ADN que l'on pouvait trouver dans les excréments de bonobos collectés dans la nature pour essayer de voir si on ne trouvait pas, dans le fond, des traces d'ADN de petits mammifères qu'ils auraient pu consommer. Et vous avez à droite des photos d'espèces qui ont été consommées par les bonobos qu'Hofreiter a étudiés, et vous voyez qu'on trouve à peu près la même chose, c'est-à-dire des petits prosimiens, donc ça rappelle les galagos du Sénégal, des petites antilopes, et puis des petits singes aussi. Donc ces bonobos consomment quand même des petits singes. Dans cette étude, Hofreiter a aussi comparé des échantillons qui venaient de gorilles. Hein. Et pourquoi il a utilisé ça? Parce que, dans le fond, une des questions qui se posait à propos de cette présence d'ADN de petits mammifères dans les excréments de ces bonobos, c'était, est-ce que c'est pas des erreurs de manipulation au laboratoire qui, dans le fond, vous savez, dans ces laboratoires, on étudie l'ADN de pas mal d'autres animaux, et notamment de chimpanzés. Et donc, Hofreiter s'est dit, en prenant comme point de comparaison des gorilles qui sont des ultra-végétariens, je suis tranquille, je pourrais montrer que c'est pas de la pollution qui s'est produite en laboratoire. Ben, figurez-vous qu'il a aussi trouvé des traces d'ADN, alors beaucoup moins abondantes que chez les bonobos et beaucoup, beaucoup moins abondantes que chez les chimpanzés communs, dans des excréments de gorilles. Et donc, ça suggère que même si dans la nature on n'observe pas ça, en tout cas les primatologues ne l'observent pas, mais probablement que les gorilles aussi consomment des petits mammifères. Bon, son argument pour, dans le fond, réfuter l'hypothèse de la pollution au laboratoire, c'est que les espèces dont l'ADN était trouvé dans des échantillons venant de différentes régions correspondait bien à des espèces qui étaient présentes dans ces différentes régions. Et donc, c'était assez difficile d'expliquer ça par le hasard. Alors, pour en finir avec les gentils bonobos, je voudrais montrer une dernière vidéo qui est un peu triste, mais qui vous montre une femelle bonobo qui est en train de consommer de la viande et qu'elle partage même avec d'autres individus. Et ce qu'elle consomme, eh bien, c'est un de ses propres petits. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment interpréter. Les gens qui ont fait cette observation ne savent pas dans quelles circonstances est mort ce petit. A priori, on n'a pas de raison de penser que c'est la mère qui l'a tué, mais le fait est que cette mère est en train de cannibaliser son propre petit et de partager la viande avec d'autres individus du groupe. Donc, tout n'est quand même pas idéal dans le monde des bonobos. Donc, pour conclure, je voudrais souligner encore une fois le fait que c'est assez extraordinaire de voir cette appétence pour la viande chez ces primates, même si, encore une fois, on n'a pas vraiment de raison de penser que c'est une nourriture qui est indispensable à leur métabolisme. Mais vous avez vu que, bon, c'est une nourriture qui présente un certain intérêt, et aussi, dans le fond, qu'il y a une fonction sociale, encore une fois, un rôle dans la structuration de ces groupes de chimpanzés communs en particulier, à travers des transferts de nourriture qui sont une partie des échanges entre les individus et qui, dans le fond, consolident des liens entre ces individus. Alors, d'une façon qui est extrêmement, primaire et brutale souvent, mais dans le fond, c'est une préfiguration de ce qu'on va voir chez les hominines. Et j'ai souvent souligné ça dans mes cours précédents. Les sociétés humaines, même les sociétés humaines anciennes, sont des sociétés de partage, et c'est ce comportement de partage qui, dans le fond, structure nos sociétés humaines, avec des transferts de nourriture entre générations et entre individus aussi.
Le Collège de France et France Culture vous présentent le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui la consommation de viande chez les grands singes et les origines de la chasse.
Nous allons donc poursuivre cette exploration de la prédation chez les hominines en nous intéressant aux origines de la chasse. Et pour mettre les choses au clair dès le départ, je ne prétends pas pendant ce cours aborder tous les aspects de la chasse paléolithique qui mériterait plusieurs cours, peut-être même une saison entière de cours, car surtout à la fin des temps paléolithiques, on a toute une variété de techniques de chasse qui ont été développées, d'armes de chasse. Et l'homme a su utiliser toutes sortes de moyens pour se procurer du gibier. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les origines, la phase la plus ancienne. J'évoquerai à la fin de mon cours quelques objets, quelques armes du Pléistocène moyen, final, du Pléistocène supérieur. Mais essentiellement, je voudrais me concentrer sur, dans le fond, cette transition entre le monde des primates non humains et puis les hommes eux-mêmes. La dernière fois, nous avons exploré le comportement de prédation chez les grands singes africains, et en particulier chez le chimpanzé commun et chez le bonobo ou chimpanzé nain pygmée. Et vous avez vu que ces deux espèces qui sont donc essentiellement des espèces frugivores qui consomment aussi des plantes sous diverses formes, ont une forte attraction pour la viande de mammifères, et chassent des petits animaux, en tout cas des animaux qui ont un poids très nettement inférieur à la masse corporelle de ces primates. Alors, évidemment, l'homme, lui, est un consommateur de viande à une échelle bien plus élevée que ce qu'on observe chez ces primates africains. Mais ce que je vous demande quand même de retenir, c'est que la présence de tous les comportements que je viens de résumer dans ces deux espèces qui partagent un ancêtre commun rend extrêmement probable la présence d'au moins une partie de ces comportements chez l'ancêtre commun et dans la lignée qui remonte à 7 ou 8 millions d'années et qui relie l'homme actuel à cet ancêtre commun, à l'homme et aux deux espèces de chimpanzés. Alors évidemment, sur la partie, je dirais, ancienne de ce parcours, on a très peu d'informations. Alors d'abord, on a très peu d'informations parce qu'on a très peu d'informations d'une façon générale sur l'évolution des hominines les plus anciens. On a très peu de fossiles, très peu d'espèces. On va les évoquer dans un moment. Et puis surtout, le comportement que l'on a observé chez les chimpanzés ou chez les bonobos, ce comportement de consommation de petits mammifères et puis même de chasse, c'est quelque chose qui ne laisse guère de traces dans le registre archéologique. Et donc, même si les hominines d'il y a 7, 6, 5 millions d'années avaient des comportements comparables, ben dans le fond, il faudrait quand même une chance extraordinaire pour que l'on puisse le démontrer. Mais je vous demande quand même de garder ça dans un coin de la tête. Probablement, la première phase évolutive de ces hominines anciens, c'est une phase de consommation occasionnelle de viande, d'intérêt pour la viande, et alors de chasse peut-être ou peut-être pas. En tout cas, il faut bien se rendre compte que la capture de petites proies, vous avez vu que les singes colobes sont quand même assez difficile à attraper, enfin ils ne se laissent pas vraiment faire, mais vous avez vu aussi qu'il y a toute une gamme de petites proies, par exemple des petites antilopes qui se tapissent dans l'herbe dès qu'elles sont effrayées et dans le fond qu'il suffit seulement de ramasser pour les consommer, et ça c'est le genre de choses probablement qui a existé chez ces formes très anciennes d'hominines. Dernier point que je voudrais souligner avant de rentrer plus dans le vif du sujet, c'est que donc, je reviens à mon bonobo qui mange un de ses petits morts. En fait, on a quand même chez ces chimpanzés communs, chimpanzés bonobos, on n'a pas d'observation de consommation d'animaux morts, de charognes, à part ces épisodes de consommation de petits. Et j'ai posé la question encore récemment à des collègues primatologues qui vont observer dans la nature le comportement de ces chimpanzés, qui les suivent depuis des années et des années, et tous me disent, on voit les chimpanzés occasionnellement peuvent rencontrer un cadavre d'antilope morte, mais on n'a pas d'observation qui montre qu'ils ont un intérêt pour ces charognes. Je soulève ce point parce que vous allez voir que la consommation de charognes, ça va être un point central dans les discussions autour de l'origine de la chasse, de la consommation de viande par les premiers hominines, parce que c'est quelque chose qui va se présenter comme une hypothèse assez, j'allais dire, probable, en tout cas qu'il faut envisager. Pourquoi ? Eh bien parce que malgré tous les points communs qu'on a vus entre l'homme et les grands singes, il y a quand même quelques points dans le comportement de prédation des hominines qui vont être quand même assez originaux par rapport à ce qu'on observe chez les autres primates hominoïdes, hominidés même, et en particulier le fait que les hominines vont s'intéresser eux aussi à des mammifères, essentiellement des ongulés, mais assez rapidement ils vont s'intéresser à des ongulés d'une taille très supérieure au genre de proie que nos chimpanzés capturent. Chimpanzés capturent des colobes qui font moins de la moitié de leur poids. Vous allez voir que les hominines vont assez rapidement s'intéresser à des animaux d'une taille plus importante. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont, qu'il faut garder en mémoire. C'est que, en particulier, les hominines ont une consommation de ces proies qui souvent est une consommation différée. C'est-à-dire qu'il y a derrière tous les sites où l'on trouve des traces de ces activités, des restes d'animaux qui portent des traces de boucherie, de découpe, très souvent, presque toujours, on a la preuve d'un transport de ces proies. Vous vous souvenez, les chimpanzés, ils cassent la croûte sur place, quoi. C'est-à-dire que dès qu'ils ont tué leur petit colobe, ils le mangent sur place, ils le partagent plus ou moins, mais ils le mangent sur place. Donc avec les hominines, on a très souvent des transports, Et ce transport, évidemment, ça a eu des implications sur le plan des comportements sociaux, parce que pourquoi est-ce qu'ils le transportent ? Ben, ils le transportent parce qu'ils le ramènent quelque part, où ils sont peut-être à l'abri, mais aussi où il y a un partage avec d'autres membres du groupe. Alors, ce comportement de prédation chez les hominines, au-delà de cette consommation, j'allais dire occasionnelle de viande, un peu à la manière de ce qu'on observe chez les grands singes, c'est quelque chose qu'on va surtout voir se développer au cours des deux derniers millions d'années, mais on peut remonter un petit peu plus loin avec les traces archéologiques, paléontologiques. Et ces derniers millions d'années en Afrique, puisque c'est en Afrique que tout ça se passe pour l'instant, sont des millions d'années pendant lesquelles il y a des changements environnementaux très importants. On a notamment un changement du régime d'alternance entre phases plus froides et phases plus tempérées à l'échelle globale, à l'échelle terrestre. Et surtout, on a une montée de l'aridité en Afrique avec le développement de savanes, de prairies, voire de zones désertiques, au détriment des surfaces forestières, alors avec des alternances, hein, des moments où la forêt reprend, mais en général, disons qu'à chaque pulsation, on va vers un peu plus d'aridité, un climat un peu plus froid et un peu plus d'aridité. Et donc, cette évolution, c'est une évolution qui se fait par pulsation, et en particulier, on a une de ces pulsations vers plus d'aridité qu'on peut détecter grâce aux études sur les isotopes stables du carbone, et qu'on relie, dans le fond, à des phénomènes évolutifs qui vont produire chez les hominines la divergence de deux grands groupes, le groupe qui mène au genre Homo, et à notre espèce, finalement, et puis une radiation aussi de formes qui sont ce qu'on appelait autrefois les australopithèques robustes, aujourd'hui on hésite un peu à utiliser ce terme, disons les paranthropes, qui sont des formes qui sont plutôt orientées vers des régimes végétariens coriaces, je dirais, au moins de façon saisonnière. Et dans le fond, ces deux lignées sont deux formes de réponse à des changements environnementaux qui, dans le fond, raréfient la nourriture qui était celle traditionnelle des hominidés, celle que la plupart des chimpanzés, par exemple, consomment. Et d'un côté, on va vers des végétaux graines, tubercules, choses comme ça qu'on peut trouver dans des environnements relativement plus secs, en tout cas avec peu d'arbres. Et puis la viande, la viande c'est l'autre option pour s'adapter à ces environnements. Et alors on a reconnu d'autres phases comme celle-là, et en particulier celle qui va, si je peux dire, donner naissance, enfin activer chez les Homo erectus des comportements nouveaux, et en particulier cette libération complète du milieu forestier, arboré, et l'expansion de ces hominines hors du continent africain. Alors quand on regarde dans le détail, c'est un espèce de zoom donc dans cet arbre phylogénétique, voilà, de nombreuses espèces. Donc là, j'ai rangé des espèces connues en Afrique entre un peu moins d'un million d'années et puis 7 millions d'années. Donc on a ici ces formes très anciennes d'hominines, le Sahelanthrope, Toumaï, du Tchad, Aurorine, Ardipithecus. Ce sont des formes qu'on rattache aux hominines parce qu'elles partagent certains caractères avec nous. Et en fait, quand on dit certains caractères, ça se ramène essentiellement à des indices de bipédie et aussi une réduction des canines qui sont liées chez les autres hominidés à l'agressivité interindividuelle et surtout entre mâles. Donc des changements d'ordre comportementaux et sociaux. Alors ce qui est important quand même à garder en tête à propos de ces formes, c'est que ce sont des formes qui sont, encore une fois, qui ont des caractères bipèdes, mais qui sont quand même très inféodés aux arbres, aux milieux forestiers, d'ailleurs qui vivent dans des milieux de forêt-galerie, mais qui conservent des capacités de à grimper, par exemple, hein, avec en particulier chez Ardipithecus, on a décrit ce pied avec un premier orteil opposable, hein, qui permet de saisir des branches. Et donc là, on est vraiment probablement justement dans cette phase de consommation occasionnelle de viande à la façon de nos chimpanzés. Et d'ailleurs, je parlerai pas de ces formes parce que sur le plan du comportement de prédation, on n'a absolument rien à en dire, sinon des spéculations. Et puis alors, les australopithèques. Alors ces australopithèques, eux, la différence par rapport à ces hominines très anciens, c'est qu'ils montrent eux, une adaptation beaucoup plus poussée au milieu ouvert, et en particulier à la marche. En fait, ce qui différencie le plus peut-être ces formes-là de celles-ci, c'est leur pied. Ils ont un pied qui commence à ressembler beaucoup à un pied humain, avec quand même toujours quelques caractères, en particulier du membre supérieur, qui montrent que ils retournent probablement encore assez souvent dans les arbres. Et puis ensuite, ces formes-là, c'est le genre Homo. Alors là, on a affaire à des hommes, si on veut bien les appeler comme ça. Encore que les formes les plus anciennes, par certains aspects, ressemblent plus aux australopithèques qu'aux espèces du genre Homo, comme Homo erectus, Homo sapiens ou Homo neanderthalensis. Et puis ces fameux hominines qui sont adaptés à des milieux ouverts de savane, même des milieux assez, je dirais, secs, arides peut-être, mais dans une voie qui est différente des consommateurs de viande. Alors on peut essayer d'explorer le régime alimentaire de toutes ces formes à travers différents indices. D'abord, il y a l'anatomie dentaire, hein, tout bêtement. C'est ce qui est le plus classique, le plus traditionnel. On en a déjà parlé dans des cours précédents, pour ceux qui étaient là. Et puis, on peut aussi regarder les traces d'usure dentaire. Et alors, ces traces d'usure dentaire, elles sont intéressantes. Elles nous disent des choses sur l'alimentation et sur aussi l'environnement, parce que la présence, par exemple, de particules dans les milieux arides entraîne une usure des dents particulière. Ce qui est important à noter, c'est que cette usure, enfin ces micro-traces qu'on peut étudier au microscope électronique à balayage, et sur lequel maintenant on a aujourd'hui des outils d'analyse de la géométrie et des outils statistiques pour vraiment étudier ça de façon très très quantitative. Les micro-traces que nous portons sur nos dents, c'est ce qu'on a mangé, sinon la veille, du moins dans les derniers jours. C'est-à-dire que c'est un stigmate qui s'efface, qui est remplacé par d'autres formes. Et donc, c'est assez délicat à manier. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça peut changer de façon saisonnière. Et dans le fond, la mortalité aussi, elle peut changer de façon saisonnière. C'est-à-dire quand il y a une mauvaise saison, on a peut-être plus d'individus qui meurent et donc qui ont plus de chances de finir sous forme de fossiles. Et on peut avoir une représentation un peu biaisée du régime alimentaire. J'ai assisté il y a quelques semaines à une communication par une étudiante une doctorante qui a travaillé sur cette question-là sur des chimpanzés et qui a très bien montré comment, justement, on avait un signal qui était un petit peu biaisé parce que ces chimpanzés étaient tous morts pendant la saison sèche. Alors pas parce que c'était la saison sèche, c'était parce que c'était la saison pendant laquelle on était allé les tirer à coups de fusil. Mais donc des collections dans des musées, quand on étudiait ces caractères-là, donnaient dans le fond un signal qui était un petit peu biaisé. Alors avec les isotopes stables du carbone et de l'azote, on a quelque chose qui est plus intéressant dans la mesure où la composition isotopique de l'émail dentaire ou de l'os, dans le fond, là, accumule... En quelque sorte fait une moyenne de tous les régimes alimentaires que les individus ont eus, alors pas juste au cours des dernières semaines ou des derniers mois, mais sur de nombreuses années. Hein. Pour que le tissu osseux d'une côte se renouvelle complètement, il faut plusieurs années, 8 ans à peu près. Donc voilà, si on prend une de vos côtes et qu'on étudie les proportions de ces isotopes, on a une idée de ce que vous avez mangé au cours des 8 dernières années en moyenne. Hein, ça s'accumule. pour rafraîchir votre mémoire ou pour ceux qui n'étaient pas là, je voudrais simplement dire que des éléments chimiques comme le carbone, l'azote, l'oxygène, enfin le soufre, on étudie toutes sortes d'éléments comme ça, qui sont des éléments stables dans la nature, eh bien, existent sous plusieurs formes isotopiques, c'est-à-dire qu'on va avoir, en plus de la forme la plus courante, par exemple pour le carbone, c'est un carbone qu'on appelle le carbone 12, eh bien, il va exister dans la nature des carbones 13, 14, qui sont des carbones un petit peu plus lourds. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont dans leur noyau des neutrons supplémentaires. Et donc, ça va leur donner un peu plus de masse. Et puis, alors, ça peut les rendre radioactifs. Par exemple, le carbone 14 est un carbone radioactif qui se désintègre au cours du temps. J'allais dire, heureusement pour nous, paléoanthropologues, parce que cette désintégration est un moyen de datation absolument extraordinaire. Cette désintégration nous offre une horloge atomique particulièrement fiable pour faire des datations. Qu'est-ce que tout ça, ça nous dit à propos de l'alimentation ? Ça nous dit des tas de choses. Pourquoi ? Bien parce que le fait que pour des éléments comme le carbone, l'azote, le soufre, l'oxygène, il existe des formes rares qui sont un peu plus lourdes que les formes normales, eh bien, les molécules organiques qui comportent, par chance, par hasard, un de ces isotopes un petit peu plus lourd, eh bien, vont se comporter de façon un peu différente au cours des phénomènes physiologiques. Et en particulier, au cours de l'assimilation des aliments, eh bien, chaque fois qu'il va falloir être impliqué dans une réaction chimique, plus tard quand il va falloir passer à travers d'une membrane, bien, tout ça est un petit peu plus lent parce que voilà, on a affaire à une molécule qui est un petit peu plus lourde. Et en particulier avec l'azote, chaque fois que le long d'une chaîne qu'on appelle trophique, un prédateur va consommer une proie, et ce prédateur peut lui-même être consommé par un autre animal, eh bien, il va y avoir un fractionnement isotopique qui va se produire, et il va y avoir un changement de la composition isotopique, c'est-à-dire que la proportion de l'isotope 15 de l'azote, qui est un azote un peu plus lourd que l'azote 14, va avoir tendance à augmenter de plus en plus au long de cette chaîne trophique. Et c'est comme ça qu'on peut construire des diagrammes comme celui-ci, où vous avez ici, en abscisse, les variations, la proportion d'isotope 13 du carbone, et en ordonnée, les variations de l'isotope 15 de l'azote, eh bien, on peut placer des plantes et des animaux sur un diagramme comme celui-là. Alors, ce que vous voyez ici, c'est d'abord que le long de l'abscisse, on a des chaînes trophiques qui s'enracinent à des endroits différents. On a une chaîne trophique qui démarre avec des plantes qu'on appelle des plantes en C3. Alors, les plantes en C3, dans nos régions, c'est pratiquement toutes les plantes. En Afrique, c'est essentiellement des plantes qui vivent dans le milieu forestier, justement. C'est les feuilles des arbres. Et puis, alors, on a des plantes qu'on appelle des plantes en C4, qui sont des plantes qui ont un cycle du carbone un petit peu différent. Et ces plantes en C4 sont généralement des plantes qui se sont adaptées à des milieux un peu plus secs, justement, un peu plus arides. Et en Afrique, eh bien, c'est les plantes herbacées qui poussent dans les savanes. Alors, il y a aussi des plantes cultivées par l'homme qui sont des plantes en C4, par exemple le maïs. Et donc, un homme qui mange plutôt du maïs, ben, il va se retrouver dans ce diagramme décalé vers ces valeurs-là de l'isotope 13 du carbone. Et puis ensuite, vous voyez cet empilement d'espèces, eh bien, ça représente des chaînes trophiques d'animaux qui se consomment les uns les autres, enfin, d'abord qui consomment les plantes et puis ensuite qui se consomment les uns les autres, avec un accroissement donc du delta d'azote 15. La chaîne marine se case quelque part entre la chaîne qui s'enracine dans les plantes en C3 et la chaîne trophique qui s'enracine dans les plantes en C4. Et comme le milieu marin, c'est un milieu où il y a un grand nombre justement de niveaux de prédation, avec des chaînes alimentaires qui sont très longues, avec des des petits animaux, des mollusques consommés par des poissons de plus en plus gros, des mammifères marins, puis il y a des super prédateurs qui consomment tout le monde. Donc on a des chaînes beaucoup plus longues avec des enrichissements très importants en carbone 15. Alors, on peut utiliser ces isotopes pour reconstituer le régime alimentaire d'hommes qui vivaient dans le passé. Je vous passe les détails et les difficultés méthodologiques. Disons que la façon la plus simple de faire, c'est dans un environnement particulier, dans un gisement particulier, on mesure les valeurs isotopiques de ces isotopes stables pour des espèces dont on connaît aujourd'hui le régime alimentaire, des rennes, des lions, des loups, des hyènes, des zèbres, tout ce que vous voulez. Et puis, une fois qu'on a pour un gisement toutes ces valeurs, eh bien, si dans ce gisement on a des restes humains, on peut analyser ces isotopes stables et puis voir si l'homme s'il se place plus près des hyènes, des loups ou plus près des cervidés, par exemple. Pourquoi on aime avoir ces valeurs dans un même gisement ? Ben, pour se libérer d'autres facteurs qui peuvent influencer les valeurs isotopiques, qui sont des valeurs liées au climat, liées aussi à la aux conservations dans un milieu particulier. Et donc ça, ça permet de s'exonérer un peu de ces difficultés.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours de Jean-Jacques Hublin, « La consommation de viande chez les grands singes » donné le 30 octobre 2018 et « Les origines de la chasse », première partie, donnée le 6 novembre. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017, et plus récemment, il a contribué à une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, sous la direction de Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et Alain Schnapp, aux éditions de La Découverte et avec l'INRAP. Réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son interrogation des origines de la chasse chez les hominines. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.